Je vous avais fait une promesse, effectivement. J'avais quand même dit, Dieu voulant. Hein ? Je propose donc de continuer notre partage sur ce que j'ai appelé les actes des fils des prophètes, que principalement on a débuté la semaine dernière, mais pas dans l'ordre chronologique, comme j'ai dit. Donc si vous voulez réécouter, ben, vous pouvez après remettre dans l'ordre. Et je vous propose d'aller dans 2 Rois, chapitre 4. 2 Rois, chapitre 4, verset 1er. Une femme d'entre les fils des prophètes cria à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit « Que puis-je faire pour toi ? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Elle répondit « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants et il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Et elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, et il dit, « Va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Jusque-là, la lecture. Seigneur, nous voulons nous mettre encore devant toi, devant ce texte, devant ta parole. Seigneur, donne-nous ton message. Donne-nous ce que nous avons besoin encore aujourd'hui d'entendre ta parole. Seigneur, qu'elle nous fasse du bien ou qu'elle nous reproche, mais qu'elle soit ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous avons vu la semaine dernière qui étaient les fils de prophètes. Pour rappel, ces groupements de fils de prophètes étaient en quelque sorte des communautés opposées au culte des Vaudors instaurés quelques cent ans avant par le roi Jéroboam. Et c'était une religion officielle du pays. On a appris aussi qu'ils étaient nombreux, qu'ils ne sont pas riches et qu'ils suivent fidèlement l'enseignement des prophètes, en l'occurrence ici, ben, Élisée, évidemment, quoi, dans notre texte. Nous apprenons aujourd'hui par notre lecture, verset 1er, que certains étaient mariés. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort. » Et de surcroît, avait des enfants. Le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants. Nous apprenons aussi qu'ils avaient des maisons dans une ville ou un village. Verset 2, Élisée lui dit « Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Verset 3, et il dit « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins. » Va demander dehors. Nous montre bien que ces fils de prophètes ne vivaient pas tous ensemble dans la même maison. Ils avaient des maisons individuelles. Bien que j'ai émis, la semaine dernière, l'idée qu'ils mettaient tout en commun, ça ne veut pas dire qu'ils habitaient tous dans la même maison. Au vu de ces derniers éléments, on peut penser que ce n'était pas une communauté de moines, qu'ils n'étaient pas tous dans un monastère et que tous n'avaient pas le même mode de fonctionnement. Donc ce sont, en résumé, des rassemblements de personnes. Ils se réunissent autour d'un prophète. Je rappelle que le prophète était d'abord un homme de Dieu, un homme de la parole. Ce n'était pas un qu'on allait consulter pour dire « qu'est-ce qu'il va faire demain ?» D'abord, il parlait et il donnait la prédication que Dieu lui avait donnée, la parole que Dieu lui avait donnée. Ces fils de prophètes contribuaient à la construction de la communauté matériellement. On a vu qu'ils avaient chacun droit à aller couper un arbre, à aller prendre une poutre. Ils étaient de plusieurs régions, Bethel, Jéricho, la montagne d'Éphraïm. Ils sont des familles. Ils vivent dans le monde, ayant des voisins. Ils ne sont pas du monde, puisqu'ils ne suivent pas la même religion instaurée. Ils suivent aussi l'enseignement des prophètes. Tout ça nous fait un peu croire que c'est quand même une communauté un peu comme la nôtre. Et le dire de la veuve met du poids à la foi de son mari décédé. quand elle nous dit « Ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. » C'était quelqu'un ancré. Et dans le dernier partage que nous avons lu, qu'il n'y a que les fils des prophètes qui sont assis devant le prophète. Question, les femmes étaient-elles admises ? On n'en parle pas. On sait bien qu'à cette époque, les femmes n'avaient pas grand-chose à dire. Je ne vais pas dire que maintenant, elles ont tout à dire, mais bon. À cette époque-là, elles n'avaient rien à dire. Elles étaient là pour juste être parents, juste élever les enfants. C'était comme ça. Elles se mariaient. Bon, avant d'être mariée, elle était entretenue par ses parents. Une fois mariée, elle était entretenue par son mari. Mais si elle devenait veuve, si le mari n'avait pas des frères pour la prendre à sa charge, elle allait au CPS. Ah ben non, pas de CPS, rien du tout, elle était livrée à elle-même. Les veuves et les orphelins étaient livrés à eux-mêmes. Et tout au long de la Bible, des récits sont courants. On parle beaucoup de la veuve et de l'orphelin. Plusieurs passages nous parlent de la défense. Le livre des Actes nous rapporte aussi que l'Église naissante avait ce genre de problème. Occuper les veuves, les hébraïsants et des grecs. Bref, la perte d'un mari, de plus un père de deux enfants, était une catastrophe. Exactement, une catastrophe. Et notre femme des fils de prophètes est dans le pétrin. Et sa dette, apparemment, est énorme. Parce que, bon, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. Le créancier, le banquier, l'huissier, on lui donne le nom qu'on veut, celui à qui on doit de l'argent. Le texte ne nous dit rien sur l'origine de la dette. Peut-être que son mari, ben, il a acheté la maison et il a fait un crédit hypothécaire et que maintenant il faut le rembourser, peu importe. Si c'est le cas, ben, le propriétaire, ben, il aurait pu récupérer la maison, expulser la famille, oh, tout le monde dehors, mais je pense qu'il est plus mal. En prenant les enfants, il avait de la main-d'œuvre à bas prix. En mettant les enfants en esclavage, il s'octroie vraiment quelque chose de bon marché. Catastrophe ! Tout comme le fer de la hache empruntée, vous vous souvenez, la semaine dernière, ou ceux qui n'ont pas écouté, pas grave, vous allez écouter. La dette qu'il faut rembourser est une catastrophe pour la veuve, parce que sans revenu du mari, seul autorisé à travailler, elle est condamnée à rembourser. Rembourser le prix fort. Et, comme on l'a vu, ses enfants. Et oui, la loi de Moïse autorisait à devenir esclave pour rembourser une dette. Vous avez une dette, ben vous vous mettez à aller balayer les rues ou travailler pour l'autre. Mais c'était jusque seulement 6 ans. Parce que, dans la loi Moïse, tous les 7 ans, il y avait la remise de dette. On ne pensait quand même pas qu'on pouvait utiliser des enfants. Alors, ici, il y a une arnaque. Le créancier, ben, il en profite, quoi. Pauvre veuve, on en profite, on prend les enfants et on va les exploiter. Mais pour ce qui est du père et du mari, le targum, c'est quoi le targum ? Le targum, je vous dis ce que c'est une traduction de l'Ancien Testament en araméen avec des commentaires également en araméen faits pendant la période de captivité à Babylone. Petite explication, donc ils ont fait des écrits en araméen quand ils étaient en déportation pour avoir quelque chose en main. Et en plus, ils ont mis des commentaires, un petit peu comme une Bible annotée, quoi. Et à côté, ben, il y avait des commentaires. Et la langue araméenne est la langue de base qui a donné l'hébreu et l'arabe, donc qui est parlée depuis il y a 3000 ans. Voilà pour les détails. Mais je disais donc, pour ce qui est du père et du mari, le Targum dit que le prophète défunt était Abdias. Selon Flavius Joseph, un autre historien du 1er siècle, il aurait emprunté de l'argent pour nourrir des jeunes prophètes qu'il aurait cachés. Donc Abdias aurait pris des prophètes, il les aurait cachés un petit peu comme les Juifs ont été cachés pendant la guerre, et il aurait emprunté de l'argent. On a une référence biblique. Référence biblique, 1 Roi 18, 3-4 nous dit « Et Acab fit appeler Abdias, chef de la maison, or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne et il avait nourri de pain et d'eau. » Donc on a une référence biblique comme quoi Abdias a bien caché Il y a un rapprochement avec le talcum. Donc, il aurait fait un emprunt au roi et qui doit, Abdias décède, il faut rembourser. Donc, la dette contractée ne serait pas un prêt hypothécaire, mais un peu une aide diaconale pour l'œuvre de Dieu. En temps de persécution, ben, ça aide. Réunissez des fonds pour aider ceux qui étaient dans le besoin. Là encore, le fait de travailler pour Dieu ou pour le Seigneur, comme on disait, ne nous met pas à l'abri d'une catastrophe économique et d'une épreuve qui paraît au-delà du raisonnable. Hein? Seigneur, on va prendre mes enfants, quoi. Mais malgré la mort d'Abdias, le présumé fils de prophète, il laissera quand même, lui, non seulement un super témoignage de la crainte de l'Éternel, mais également un livre qui porte son nom et qui sera intégré dans le canon de l'Ancien Testament. Sa vie et sa mort ont laissé des traces jusqu'à nos jours, vu qu'on en parle encore. Il est mort, mais il parle encore. Mais revenons à sa veuve qui vient crier à Élisée, abusée par le créancier, et j'ai ajouté, et elle complètement désabusée, elle n'a plus qu'un seul recours. Il n'y a pas de CPS, il n'y a pas d'aide, un seul recours, l'Éternel et son représentant. Mais ce qu'on voit, c'est que son cri n'est pas un cri de contestation, mais un cri de désespoir. « Ô Seigneur, aie pitié de moi », elle aurait pu le dire. Elle ne réclame rien, elle ne demande rien. Elle expose tout simplement les faits dont elle est victime. Dans son cri, on peut ressentir cette détresse spirituelle. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi cela m'arrive ? À nous, qui sommes restés fidèles alors que les autres adorent Baal, pourquoi nous ? Mon mari craignait Dieu. Pourquoi ça m'arrive ? Et pour toucher le cœur du prophète, elle utilise des mots un peu, comme j'ai marqué, de plaidoirie. De plaidoirie d'un avocat au tribunal. Tu connaissais mon mari. Il était à ton service, il craignait l'Éternel. Et la cerise sur le gâteau pour faire craquer le grand homme de Dieu qui a reçu, je répète, le double de l'esprit du prophète Élie. Elle lui dit, mes enfants sont en danger. Mes enfants sont en danger. Ah, quand on touche aux mineurs d'âge, hein, la justice doit être, je pense, intransigeante. On ne doit pas lésiner, on ne doit pas discuter. Les enfants sont innocents. La question du prophète. Vous savez, les Juifs posent une question et répondent toujours par une question. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi ? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ? Il aurait pu lui dire, ne tracasse pas, hein, on va faire une collecte. Hein, et tu iras de temps en temps à la diaconie, chercher à la banque alimentaire, ça va aller. Peut-être. Non, le prophète se soucie du problème de celle qui l'interpelle. Mais c'est quand même une question difficile pour quelqu'un qui a tout perdu, ses repères. Elle n'a plus de repères, elle n'a rien. C'est... Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Que faut-il faire ? Une collecte, demander la compréhension du créancier, peut-être, est-ce qu'on peut étaler la dette, ou peut-être même, pourquoi pas, ressusciter le mari. La solution ultime. C'est très bien qu'Élie a ressuscité quelqu'un, pas de souci. Question difficile parce que on a tendance à dire à Dieu comment faire. Il faudrait que tu fasses comme ça. Dieu devrait intervenir, il faut. Mais Élisée pose quand même la question, peut-être, pour tester sa foi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? On se souviendra que Jésus fait la même démarche. Devant l'aveugle de Bartimée, Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je fasse ?»« Mais Seigneur, excuse-moi, mais tu vois !»« Ben non, tu vois, toi tu vois, moi pas !» Il a quelque chose à faire. Élisée, de continuer, « Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Autrement dit, qu'est-ce qu'on a sous la main, quoi. Jésus, pareil, pour un aveugle, il le guérira avec de la boue. Pour nourrir une foule de 5000 hommes, il utilise 5 pains, 2 poissons, et bien d'autres exemples. Il prend ce qu'il a sous la main. Pas de grand tralala, pas de blabla, seulement ce que l'on a. On utilise ce qu'on a. Dieu, il fait avec ce qu'il a. C'est étonnant, hein. Il fait avec nous. Il fait ce qu'il a. Le tout dans la démarche de cette victoire, c'est de donner le peu qu'on a. même si on n'a rien. Oui, prends tout Seigneur, qu'on a chanté. Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Rien, pour Dieu, c'est quelque chose. Je suis désolé, mais il m'est passé à ce moment-là où j'écris Raymond Devos, et je vous cite ce qu'il dit dans un sketch. Rien, ce n'est pas rien. La preuve, c'est que l'on peut le soustraire. Rien moins rien égale moins que rien. Alors, si l'on peut trouver moins que rien, c'est que ça vaut quand même quelque chose. On peut acheter quelque chose avec rien. En le multipliant, une fois rien, c'est rien. Deux fois rien, c'est rien. Mais trois fois rien. Pour trois fois rien, on peut déjà acheter quelque chose. Ça, c'est la logique de Raymond Devos. Mais si on réfléchit bien, c'est un peu aussi la logique de Dieu. Avec rien, il fait. Il est quand même le créateur des cieux et de la terre qui a fait naître la vie de ce qu'il avait sous la main. Il avait de la terre, de la poussière, il nous a fait. Il a fait de rien. Alors pour lui, un rien vaut quelque chose. Et le peu d'huile que la veuve possède, Dieu va le fructifier. L'huile n'est pas un don, mais un investissement, vu que ça va rapporter beaucoup. Enfin, nous, on le sait, elle ne le sait pas encore. Le tout est de tout remettre entre les mains du super banquier de nos vies. Dieu lui-même est le consommateur de notre foi, qui est Jésus-Christ, dont parle l'Épître aux Hébreux. La veuve a mis sa foi en action et a donné le peu qu'elle avait. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout donné. Il faut obéir et persévérer dans la volonté de Dieu. Le Seigneur ne travaille pas seul. Comme je disais, un gentleman, tu veux le faire ? Fais-le. Mais il travaille avec nous. Le chrétien a sa part à faire pour son salut et son miracle, de même qu'il a fallu ramasser le fer de la hache qui surnageait, de même, la veuve devra faire quelque chose. Verset 3, Élisée lui dit, « Va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui sont pleins. » Les consignes sont claires et à la portée de la veuve. Mais ce n'est pas précis quand même. Combien de vases? Quelle capacité? Où les stocker? Et que vont dire les voisins? Donne-moi des vases. Je ne sais pas, mais je vais chez mon voisin demander des jerricanes, lui dire qu'est-ce que tu fais avec un bon mazout peut-être. Mais bon, toutes ces questions, elles ne se les posent pas. Rien n'y fait, ces questions sont englobées dans sa foi. Une foi qui ne dit rien, mais qui s'exécute. La foi fait. La femme n'a pas de possibilité de tester. Tu ne vas pas faire un petit essai de la promesse. Elle doit chercher des vases, fermer la porte et commencer à verser. Si le miracle se produit, elle ne pourra pas l'interrompre. Il faut les vases là. Et suivant le nombre de vases, elle aura de l'huile. Elle sera bénie en proportion de sa foi. Alors Élisée l'encourage à aller chez tous les voisins et demander beaucoup de vases. Une grande quantité, une immense bénédiction est promise. Le reste, c'est l'affaire de Dieu. Et ça, c'est lui qui juge. Le reste ne dépend plus d'elle. Elle fait ce qu'il doit faire. Alors elle quitta, verset 5, elle ferme la porte sur elle, sur ses enfants, et lui présentait les vases, et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et lui, il s'arrêta. Il n'y a pas de grande scène. Il n'y a pas de spot multicolore. Il n'y a pas de caméra de télévision pour retransmettre le miracle. Tout se passe dans la maison, discrètement. Dieu agit dans l'ombre et le miracle se produit dans l'intimité familiale, sans témoin extérieur. Personne n'a vu. Seul les résultats seront visibles lors de la vente de l'huile. Mais rien. Tout se passe. Sans publicité. Oh, nous avons le texte d'histoire, mais qu'aurions-nous fait à la place de la veuve? Nous plaindre, peut-être. Mais Seigneur, nous avons tout fait pour toi. Et voilà ce qui nous arrive. nous apitoyer, mes seigneurs. C'est toujours à moi que ça arrive. Nous lamenter, mes seigneurs, que vont devenir mes enfants? Que vont devenir nos enfants? Ou interroger, Seigneur, dis-moi ce que tu vas faire et je te dirai si je suis d'accord ou pas. Et bien d'autres excuses parfois. Mais c'est pas fini. Il faut persévérer jusqu'à la fin. C'est pas tout d'avoir l'huile. Il faut aller la vendre. La veuve devra vendre le fruit du miracle, car le vrai miracle n'est pas seulement d'avoir l'huile, il faut réussir à la vendre. Elle alla et rapporta l'homme de Dieu, et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Non seulement elle pourra rembourser, mais elle pourra vivre, elle et ses fils, comme rentière. Sans être inquiétée. Win for life. C'est win for life de l'époque. Mais enfin, pour terminer, plusieurs se sont quand même posé la question, quelle était cette sorte d'huile qui a pu payer une dette qui entraînait l'asservissement des deux fils et permettait une suite de vie sans souci. Si c'était de l'huile d'olive utilisée pour la cuisine, le produit n'aurait pas couvert tout. Bien que maintenant, l'huile d'olive est très chère. Mais à cette époque-là, même en énorme quantité, ça n'aurait pas pu donner ce produit-là. Il est probable que c'était de l'huile parfumée utilisée pour empêcher, à l'époque, le dessèchement de la peau après le bain. C'est prouvé, on a retrouvé de l'huile à cette époque-là. Et cette huile était très précieuse et était conservée parfois comme une sorte de caisse d'épargne pour les temps difficiles. Une pompe pour la soif, quoi. On gardait cette huile-là précieusement, on ne sait jamais. Mais apparemment, elle n'en avait pas assez, la foi. Ce qui remonte un peu le cran de la foi de cette dame, elle doit donner ce qu'il lui reste de plus précieux chez elle. Oui, prends tout, Seigneur. Un peu comme le parfum de Grand Prix qui a été mis sur les pieds de Jésus et qui coûtait très cher. Tout lui donner, même ce qui à nos yeux est essentiel, notre pomme pour la soif, petite réserve, tout donner. Oui, prends tout pour la chanter. Oui, prends tout, Seigneur. Même la pomme pour la soif. Mais en conclusion, quelle est l'utilité de ce miracle? Pourquoi Élisée agit-il de la sorte? Pourquoi ne pas avoir organisé une collecte pour montrer la solidarité des prophètes? Ils vivaient quand même tous ensemble. On aurait pu un petit peu. Hein. Pourquoi pas ne pas avoir ressuscité le mari pour montrer la grandeur de Dieu? Ah, vous avez vu, Seigneur, il est grand. Jésus est discret. Dieu est discret. Alors pour finir, je laisserai la réponse à Daniel Harold, qui est un théologien écrivain, qui nous donnera une conclusion. Comme toujours, la réponse à cette question est liée au ministère spécifique d'Élisée. Ces miracles sont porteurs d'un message ayant Jésus au centre, un peu christologique comme il dit. Les fidèles vivent dans un monde hostile, les hommes sans cœur sont légion, les maladies et la mort frappent fidèle et infidèle. Mais l'espoir des fidèles n'est pas dans la courte durée, dans le court terme, mais dans le long terme. Au jour promis, le Messie établira son royaume. En attendant, le fidèle, le chrétien, doit garder confiance et rejeter toute tentation de découragement. La veuve perd son mari, mais elle garde ses enfants. La vie continue et la famille se perpétuera. L'avenir est assuré. Pour nous, que nous puissions, nous, être encouragés par ces témoignages venant d'il y a plus de 2800 ans, il ne faut pas l'oublier, dans lesquels Dieu ne change pas et qu'il est toujours digne de confiance. Il répond au-delà de ce qu'on espère, si on lui donne tout et si on obéit à ce qu'il nous dit. Amen. Seigneur, nous voulons nous mettre devant toi, même si nous n'avons rien, nous voulons te le donner. Reconnaître notre petitesse, reconnaître notre faiblesse pour que ta grandeur rayonne. Tout se passe dans l'intimité, mais ô combien toi, tu rayonnes et tu prouves que tu es un grand Dieu. Merci pour cet amour, merci pour cette délivrance que tu fais encore aujourd'hui. Merci pour tout ce que tu nous as donné. Au nom de Jésus. Amen.